aurait sûrement voulu faire de nous des gens forts et intelligents. Mais quand j'y pense, ma gorge se noue, exemplaire malgré nos déviances. On était jeunes et encore un peu loups, devenus forts, surtout exigeants. Aujourd'hui, tu serais fier de nous, encore une fois, malgré nos déviances.
Bonjour auditeurs de Radio Gémozo, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis Lia. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir au téléphone avec moi Frédéric Perron, qui est entre autres claviériste et accordéoniste au sein du groupe The Bink, le groupe le plus emblématique du reggae made in France, que j'ai d'ailleurs eu la grande chance de voir en concert au festival Décibule il y a peu. Bonjour Fred, comment ça va ?
Bonjour, ça va très très bien, merci.
Eh ben super. Alors je parlais du festival Décibule, quelques mots peut-être. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous ?
Ça s'est très très bien passé. Alors beaucoup de monde.
Oui.
Ça nous manquait vraiment en fait de se retrouver. Moi je suis un petit peu sorti après dans le public, voir des gens. Ça fait vraiment du bien de recroiser des gens qui nous font des compliments, qui nous disent qu'on leur a manqué, parce qu'au final c'est réciproque.
Oui. Vous étiez absent de la scène depuis un moment ?
Depuis le dernier concert qu'on avait fait, c'était décembre 2019.
Ah oui.
Et après, on devait repartir style au mois de mars.
Oui.
Juste là, il y a eu le confinement. Et...
On essaiera d'en parler un petit peu plus tard, si vous avez créé ou non, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Pour commencer, Fred, si tu te présentais avec tes propres mots, ça donnerait quoi ?
Alors, bien moi, je suis... Avant tout accordoniste, j'ai commencé par cet instrument,
oui.
Puis claviériste de The Bink et en d'autres mots, je sais pas.
C'est déjà bien.
Ouais.
Alors ici, on est en plein cœur des Vosges et toi, tu te trouves où à cet instant précis ?
Moi, j'habite une petite ville à côté de Saint-Étienne.
Oui,
voilà.
L'accent s'entend bien.
Ah.
Comment ? Oui, il est plus beau que le nôtre.
Donc, ah bon ? Ça va. Oh, je sais pas.
Si, si. Comment es-tu un jour tombé dans la grande marmite de la musique ?
Alors moi, je suis tombé tout petit en fait, tout jeune, à 5 ans. Mon père joue de l'accordéon, mon grand-père en jouait aussi. Donc j'ai commencé par cet instrument.
D'accord.
Et mon père m'a rapidement mis au cours de musique pour pas que je prenne des mauvaises habitudes, parce que lui, il est autodidacte et il a pris des mauvais doigtés,
oui.
Tout ça. Et ma sœur, en parallèle, prenait des cours d'orgue. Donc j'avais aussi un orgue à la maison. Et
coup,
je passais de l'un à l'autre. Sauf que bon, l'orgue, j'ai jamais pris de cours. Et c'était un peu la récréation, parce qu'il fallait que je me focalise sur mes partitions pour pas prendre mauvaises habitudes à l'accordéon. Et du coup, moi, j'avais envie de jouer en tant que... autodidacte en fait, j'avais envie de jouer sans partition et j'ai jamais aimé les partitions d'ailleurs.
D'accord, c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Ah oui, je suis un mauvais élève, le prof me jouait un morceau, me disait allez maintenant c'est à toi et je rejouais ce que j'avais entendu, bien sûr avec des petites erreurs parce que j'ai pas la mémoire de tout retenir les détails et puis en fait j'ai jamais accroché les partitions, mais personne dans le groupe. Hein.
Ah bah c'est comme ça, c'est tout à l'oreille du coup.
Ça. Ouais, on a un groupe d'autodidactes, hein. C'est clair.
C'est bien. Vous vous en sortez très bien, c'est seulement qu'on puisse dire. Alors j'ai lu que quand tu étais gamin, justement, tu accompagnais ton père qui jouait dans les campagnes.
Ouais. Mon père, en fait, comme il jouait de l'accordéon, bien sûr, et qu'il était le plombier, parce qu'on habitait en campagne, il y a eu des premières personnes qui lui ont demandé s'ils pouvaient venir animer leur mariage et tout. Il s'est engrainé là-dedans, en fait, petit à petit. Et après, tous les week-ends, il était parti et... Ça lui faisait plaisir que je vienne avec lui pour le soutenir un peu.
Mm-hmm.
Généralement, en plus, il jouait gratuit. Enfin bon, c'était...
Pour plaisir, quoi.
Alors, quand on lui donnait quelque chose, généralement, il me donnait de cachet.
Ah.
Mais ouais, du coup, il passait des disques, il faisait de l'accordéon, quoi, et je l'accompagnais.
Génial.
Au clavier ou à l'accordéon.
Super. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première scène, justement ? Est-ce que c'était avec ton papa, du coup ?
Ah bah ouais, après je sais pas si on peut dire une scène, parce que du coup c'était ambiance des petites salles quoi.
Ouais.
Ma première scène, non, c'était avec un groupe de reprise quand j'avais 18 ans, je faisais de la reprise au début pour cachetonner comme on dit, avant The Bink quoi.
Ok, justement tu fais donc partie du groupe The Bink qui est un groupe de reggae français hein, bien entendu, créé en 1998, originaire de Saint-Étienne. Quand et comment s'est faite la rencontre avec les autres membres de The Bink ?
Alors moi, du coup j'étais sur Saint-Étienne parce qu'il y a un groupe de musique de Saint-Étienne qui m'avait demandé de jouer avec eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Hakim, qui lui n'était pas dans The Bink.
D'accord.
Mais on a super sympathisé. Lui, il était plus percu, djembé, darboka, enfin, il jouait
oui.
il adorait taper tout le temps. Et moi, j'ai dit, on monte un truc ensemble, si tu veux. Donc, du coup, on a monté un petit groupe, ça s'appelait Amétis. Ça, c'est vieux. Hein.
C'était incroyable.
C'était avant de Bing, quoi. Donc, il y avait Hakim à la percu, moi à l'accordéon, une chanteuse et un autre percussionniste. Et donc, du coup, on avait ce groupe-là. Et c'est comme ça que j'ai connu Hakim. Et puis, un jour, on était en train d'attendre la chanteuse qui avant de répéter. Et j'ai commencé à jouer des trucs un peu orientaux au piano. Et là, il s'est mis à pousser des vocalises. J'ai fait, mais c'est un truc de fou, mais tu chantes comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête les percus, chante. Enfin, non, pas arrête les percus, mais chante, trouve un groupe, c'est un truc de fou. Et après, ouais, je sais pas, il le savait déjà au fond de lui qu'il avait un truc dans la voix, mais après, il a rencontré Jérémy, le guitariste de Bink, et Grégory Zigo, le batteur, et le bassiste de l'époque, Jérôme. Et il a rencontré ce groupe là, ils étaient même, il y avait je crois Aurélien aussi, il y avait Ben qui faisait le son déjà. Et ils avaient déjà une petite formation, enfin dubbing ça existait depuis un an je crois. Et il a répété avec eux et ça a accroché direct. Et il m'a fait écouter, je dis mais j'ai senti qu'il y avait un truc harmonieux, enfin une cohérence dans les instruments. C'est que c'est la guitariste jouait en accord avec la batterie, que le bassiste jouait en accord avec la guitare. Je trouvais qu'ils avaient compris un truc dans la musique et moi quand j'ai entendu ça j'ai dit mais ça c'est un groupe qui va marcher à tous les coups.
Ah bah oui.
Et puis 2 mois après il me dit ouais il cherche un clavier. Et du coup je lui dis mais moi j'avais déjà 2-3 groupes. J'ai dit mais moi ça m'intéresse.
Génial.
Et du coup ils avaient leur premier concert dans une salle vers chez nous là. Et j'étais allé voir pour décider si je m'engageais avec eux ou pas. Et eux ils avaient 20 ans, moi je suis un peu plus vieux, j'avais 25 ans. Et du coup c'est parti comme ça. En décembre 98 moi je suis rentré dans le groupe et puis c'était parti quoi.
Et tu n'en es plus jamais parti.
Voilà. J'en suis plus jamais parti, non.
C'est
non,
mais génial. Génial.
Je ne pouvais plus partir. Ils avaient besoin de moi.
Ils t'ont kidnappé. Alors depuis sa création, le groupe a connu une évolution. Il y a une atmosphère vraiment très particulière qui se dégage sur scène, un dynamisme incroyable, des textes forts. Comment on trouve sa place au sein d'un groupe comme celui-là quand on est plusieurs, etc. Voilà, j'imagine qu'il faut peut-être un petit peu de temps ou est-ce que ça se fait naturellement?
Ouais, alors du coup, c'est vrai qu'on est vraiment tous différents au niveau tempérament. On est tous vraiment différents. Il y en a qui sont plus speed, il y en a qui sont plus directifs, qui ont tendance à vouloir mener la barque un peu, puis d'autres qui sont plus à suivre. Moi, je suis un petit peu je m'adapte, j'écoute, je donne mon avis. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ma place. Je pense que, comme on est 7 à prendre des décisions, il faut pas être ancré sur ses idées et absolument vouloir faire comme on a décidé. Il faut écouter les idées des autres et puis voir si au final ça nous plaît. Moi je fonctionne comme ça.
Ok.
Et puis
de quoi vous décidez ensemble justement? C'est au niveau création, composition, chacun y met sa patte?
Alors au niveau composition, création, ouais c'est ça. C'est dans la compo, c'est des fois difficile au début quand on est avec il faut accepter que des fois ces idées sont pas bien. Et en fait, nous, on a tous compris ça dans le Wing, c'est-à-dire quand on répète ensemble, si on a un qui nous dit ouais, ton son il est pas bien, ton idée c'est trop chargé, ok, je fais autre chose. En fait, on a appris ça entre nous et maintenant on se connaît tellement. Les décisions, c'est ça, c'est des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on fait pas comme concert, choisir les motifs de t-shirt, on choisit tout en fait.
Super.
Les pochettes, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas.
Quelle évolution il y a eu depuis la création, depuis ton intégration dans le groupe? Comment ça a évolué, Dubbing?
Disons que ça a évolué parce que déjà, au début, on était vraiment seul et on n'avait pas de manager, on n'avait rien. L'argent qu'on gagnait, on le gardait dans une boîte. On se payait pas, on gardait cet argent pour payer l'essence et voilà. Ça a évolué. Et puis maintenant, on a notre propre label et puis on fait tout nous-mêmes, quoi. Enfin, on est resté indépendant, c'est la seule chose qui a pas changé, mais sinon tout le reste, on s'est développé. On est en société maintenant, c'est une entreprise, quoi.
Oui.
On est 7 patrons.
Eh ouais, incroyable.
Et du coup, on a tous les techniciens, tous les gens qui travaillent avec nous, qui sont au final nos employés, mais bon, pour nous, c'est ils sont comme nous, quoi.
C'est vos copains.
Ouais, oui, c'est nos collègues.
Quand est-ce qu'il a eu lieu ce grand virage, justement, pour Dub Inc? Quand est-ce que, voilà, ça a pris son envol?
Ça a vraiment progressé. Enfin, ça a été progressif, en fait. C'est Dub Inc, on a fait des petits concerts qui sont devenus de plus en plus gros et puis après qui se sont étalés à l'étranger et de plus en plus loin. Ça a été vraiment progressif. Il n'y a pas eu un déclic d'un coup, j'ai l'impression.
Oui.
J'ai l'impression que même maintenant encore, quand on joue en concert, j'ai l'impression que chaque fois, je me dis, mais c'est fou. Chaque fois, ça, c'est de plus en plus. C'est et maintenant, du coup, en France, c'est au summum pour nous. Enfin, oui. Moi, personnellement, je vois pas ce qu'on pourrait avoir de mieux. Et maintenant, c'est à l'étranger. Des fois, on arrive, on se dit, ah ouais, mais là aussi, ça prend. Mais et là aussi, c'est...
Incroyable.
Des Alors, pays plus que d'autres, mais bon, voilà quoi.
C'est quoi le pays qui t'a marqué le plus, tiens, pendant une tournée?
Bah, le plus loin qu'on soit allé, c'est en Nouvelle-Calédonie. On était resté un peu plus pour profiter un peu du coin. Et moi, ça m'avait marqué parce que j'étais parti en tribu, j'avais rencontré des Kanaks, on avait passé du temps ensemble, on avait joué ensemble, ils avaient un groupe de reggae.
Incroyable.
Ils étaient fans du groupe. Du coup, ils étaient contents que je vienne passer du temps avec eux, j'étais pratiquement manager. Après, notre bassiste nous avait rejoint, notre guitariste.
Génial.
Ça m'avait marqué, ouais.
Génial. Alors, pour les curieux, les plus curieux d'entre nous, il y a d'ailleurs un documentaire qui est sorti il y a peu, il me semble, Jamais Seul, qui serait sorti le 29 juin et qui nous fait faire une sorte d'immersion à l'intérieur du groupe. Comment ça s'est déroulé?
Eh ben, du coup, c'était un petit peu pour parler de la situation Covid et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Qui s'est enchaîné avec la première date qui était un peu catastrophique au niveau de comment ça a tourné en Colombie là, où on a eu des soucis d'annulation et tout ça.
Ah oui.
Donc ça parle de tout ça. C'est un combiné de pendant le Covid et la reprise.
D'accord.
Et nos peurs, nos angoisses et notre manque de tourner et la peur de pas retrouver le public. Mmh. Ça parle de tout ça.
Comment ça s'est passé justement pendant le confinement pour vous? Est-ce que vous avez mis ce temps-là au service de la création? Est-ce que vous avez fait une pause? Quel a été votre choix?
Bon, y a eu un peu deux choses, je crois, pour chacun. C'est bricolage à la maison et on a tous des petits home studios, donc on s'est tous fermés dans nos petits home studios et on a composé chacun de notre côté.
D'accord.
Des instrus. Et on a une Dropbox commune de groupe où chacun met ses instrus et puis donc après chacun écoute les instrus des autres et les chanteurs aussi. Des fois ils vont piocher, ils s'instruisent, ils m'inspirent et ils écrivent dessus. En fait ce qui s'est passé c'est ça, c'est chacun il a composé et on s'est retrouvé avec peut-être 20 instrus.
Ah oui, génial. Mais vous deviez vous manquer quand même de ne plus passer du temps ensemble comme avant?
Ouais. Alors moi, comme je disais, c'est vrai qu'au début, la première pause, j'ai trouvé ça sympa parce qu'on n'a jamais arrêté, on a toujours la tête dans le guidon.
Oui.
Avec Dub Inc. Mais je me suis dit, bah, c'est un moment où tout le monde s'arrête de bouger, tout le monde s'arrête de speeder. Même il n'y a plus d'avion dans le ciel, les oiseaux chantent. Moi, j'étais bien au début, j'ai apprécié. Et c'est juste qu'après, oui, ça a commencé à manquer déjà de se voir. Parce qu'on se voyait pas spécialement, parce qu'il y en avait qui craignaient un petit peu le Covid.
Oui.
Et on s'est dit, ben, par respect, on se voit pas, on reste chez nous, on faisait des réunions visio, quoi.
Mm-hmm.
Et puis voilà, il y a un moment où on a commencé à se voir avec les masques, enfin, ceux qui voulaient.
Oui.
Et puis, on a commencé à rejouer un petit peu, parce qu'on avait peur de...
Depuis savoir.
On avait peur. J'ai dit comment ça va groover.
On sait plus jouer, zut. Fred, c'est quoi ton souvenir le plus fou sur scène?
Souvenir le plus fou, moi je crois que c'était au Burkina Faso. On avait joué dans un festival je crois que c'était Ouagadougou, je crois, Burkina Faso.
Ah ça. Ouais.
Et on avait du coup invité Alif Naba sur le morceau Enfant des ghettos.
Ah oui.
Et je me souviens que ce moment-là, on était vraiment immergé dans l'Afrique et quand on a joué ce morceau, j'ai vu plein de gens qui étaient réceptifs, dont des enfants.
Eh ouais.
Certainement des enfants peu livrés à eux-mêmes et ça m'avait marqué.
Ouais.
Ça m'avait j'avais eu de l'émotion.
Bah oui, je comprends.
Sinon, bien sûr, il y a toujours les concerts de Saint-Etienne, c'est ce qui nous marque le plus, parce qu'on a toutes nos familles, nos proches qui sont là.
Ah oui.
Et généralement, c'est sur une fin de tournée où on est tous un peu fatigués, où on a tous donné pendant longtemps, et c'est la dernière date où généralement on finit avec les amis, et c'est là, ça c'est toujours beaucoup d'émotions.
Ça doit donner la patate en plus.
Et puis le public est fou, quoi, c'est le chaudron.
Ben oui, c'est la maison.
Ouais.
Le nid. Alors tu as déjà d'abord commencé en tant que claviériste, on en a parlé au sein du groupe, et un petit peu plus tard quand même, tes talents d'accordéoniste ont été mis à contribution.
Oui.
Comment ça
Alors,
s'est fait?
Disons que l'accordéon, je l'avais toujours avec moi au début de Dubinc, et dès qu'on partait en Ardèche ou quoi avant, on partait en camion, je l'avais toujours avec moi et on jouait autour du feu ensemble, on a composé 10 souhaits, on a composé des morceaux comme ça, mm-hmm. avec l'accordéon. Je l'ai toujours amené, et même au début, on jouait des morceaux avec l'accordéon, dès le début. Il y avait toujours un morceau à l'accordéon sur le set d'une heure et demie, quoi.
D'accord.
Il y a eu des moments où c'est qu'on a plus pris l'accordéon pendant 3-4 ans, puis des fois, on l'a fait revenir. C'est selon les envies, en fait. Moi, j'aime bien parce que j'adore cet instrument, en fait. Donc,
oui.
Je suis toujours pour l'amener, mais des fois, ça s'y prête pas. Des fois, il y a le set qui est déjà complet avec d'autres morceaux qu'on a choisis. Donc, voilà.
Est-ce que tu peux choisir entre le clavier et l'accordéon, lequel tu préfères jouer?
Je dirais l'accordéon, mais parce que en fait, j'en joue pas assez,
ben voilà.
À mon goût. Mais si je jouais autant d'accordéon que de clavier, enfin, si je jouais moins de clavier, j'aurais certainement envie de... Ça me manquerait aussi, j'aime les deux, en fait.
Oui.
Après, le seul petit bémol, c'est que l'accordéon, c'est un vrai instrument avec des lames, et c'est un instrument qui vit, quoi, qui
oui.
vibre. Qu'un clavier, c'est électronique. Seulement, c'est le seul truc qui fait la différence. Une guitare, c'est des cordes, c'est mécanique.
Oui.
C'est physique. Un synthétiseur, ça reste un instrument qui imite les sons.
Oui, c'est vrai.
C'est le seul bémol, mais voilà, qui les imite très très bien maintenant. Donc,
c'est déjà ça.
C'est super agréable à jouer.
Puis l'accordéon, c'est un peu organique. On l'a contre soi. Voilà.
Exactement.
Il partage le mouvement.
C'est particulier parce que l'accordéon, j'en ai joué depuis tout petit, et puis j'ai même travaillé dedans une époque, j'étais monteur d'accordéon pendant 5 ans.
Incroyable.
Ouais.
Est-ce que tu en aurais fait ton métier si tu n'avais pas été musicien?
J'étais parti pour en fait en faire mon métier, et puis j'avais envie de faire de la scène, j'avais envie de jouer, j'avais envie de faire de la musique en groupe.
Ouais.
Et j'avais envie de faire la musique que j'aime vraiment. Moi, j'ai toujours écouté du reggae, du rock. Enfin, moi, j'écoutais pas mal les Clash qui ont des morceaux rock, mais aussi quelques morceaux reggae. C'est eux qui m'ont fait aimer le reggae au début, puis après, je me suis ouvert sur le reggae, vraiment. Mais l'accordéon, à l'adolescence, c'était un peu l'instrument qui m'empêchait de monter des groupes rock, justement. Du coup, j'étais un peu coincé avec ça. Le clavier, c'était pas non plus très fun pour faire du rock. Voilà, mais le reggae, c'est ce qui me correspondait le mieux pour mélanger justement ce que j'aime, c'est-à-dire moi j'aime la musique du monde, j'aime la musique métissée, et au final, aussi bien l'accordéon que le clavier peut se marier avec le reggae.
Oui. De quel instrument tu aurais aimé jouer, mais voilà, tu en es incapable, s'il existe.
En vrai, je vois pas très quel instrument je ne pourrais pas faire.
C'est cool.
Ouais, mais plus jeune, je rêvais de jouer de la batterie. Alors, quand j'allais voir un concert, je regardais toujours le batteur. Et s'il y avait un bon batteur, déjà, c'était bien pour moi. Je me disais, ça va être bien.
Bah oui, c'est vrai.
Moi, le batteur, c'était limite le plus important dans le groupe. Enfin, il y a le chanteur, bien sûr, mais dans les musiciens, je veux dire.
Oui. Tu as déjà essayé d'en jouer de la batterie?
Ouais, quand j'étais petit, j'en jouais un peu, ouais. Après, c'est mon frère qui s'est mis à la batterie, donc...
D'accord.
Je l'ai laissé vivre son instrument parce que moi j'étais plus grand, donc du coup bien sûr j'arrivais plus vite que lui.
Ah.
Je voulais pas le décourager.
Frustré.
J'ai arrêté la batterie mais à contre-cœur. J'en jouais un petit peu au début, puis après j'ai dit non mais laisse cet instrument à ton frère, t'en joues déjà deux. C'est bon.
Nous on est content que tu fasses du clavier et de l'accordéon chez Debbie.
Ah bah tant mieux.
Mais en fait tu aurais pu monter un groupe de musique en famille, si je comprends bien.
Ouais.
Justement, est-ce que tu as d'autres projets musicaux en parallèle de Dubinc?
Alors, j'ai pas trop le temps en fait. J'ai pas d'autres groupes.
Oui.
Mais j'hésite pas à aller dans des groupes quand je suis invité pour juste un album par exemple, ou j'ai participé à pas mal d'albums comme ça, en mm-hmm. tant qu'invité. D'ailleurs, même mon frère, il a un groupe qui s'appelle Crimson Train, et ils ont voulu faire un morceau avec du clavier et puis un petit clip. Et du coup, j'ai proposé de venir avec mes claviers, qu'on bosse le morceau, et puis qu'on l'a enregistré chez moi.
Et... Génial.
Ça, c'est des choses qui... Ça, c'est plus des choses pour le plaisir, vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour me faire plaisir.
C'est important. C'est important.
Ouais, et d'autres projets, non, j'aurais... Enfin, moi, j'ai toujours aimé faire du swing manouche.
Ah ouais. Manouche.
À l'accordéon, justement. Et une époque, j'avais un groupe, mais... là, c'est le temps qui me manque. Je vais pas pouvoir caler une tournée avec un autre groupe.
Oui.
Parce que je suis obligé de mettre une priorité à dubbing.
Forcément.
C'est ce qui me fait vraiment vivre. Là, du coup, je m'engage dans rien d'autre, mais c'est vrai que ça me plairait.
Justement, vous êtes en tournée, là, en ce moment, avec dubbing?
Oui, okay. Tournée des festivals.
Ouais. Donc, on mettra les dates, hein, pour ceux qui ont envie de vous retrouver. Ça donne quoi, la vie d'un musicien en tournée?
Ah ben, disons, quand on est en tournée, l'avantage, c'est qu'on a aussi du temps chez nous, en fait. On fait 3 concerts le week-end, et puis le reste de la semaine, on est chez nous. Donc, c'est un peu difficile d'organiser des choses les week-ends avec les potes. Mais bon, pour nos enfants, on est là, on peut les amener à l'école, on peut gérer la vie de famille.
C'est chouette.
C'est quand même pratique, ouais.
Si tout était possible, Fred, avec quel artiste tu aurais aimé faire collaborer, faire un duo, artiste ou groupe, si tout était possible?
Alors, moi, j'aime beaucoup le projet Fixie et Winston McKinnoff.
Oui.
Moi, comme je suis accordoniste, j'ai toujours adoré Winston McKinnoff. Et quand j'ai vu qu'il avait fait ça, j'ai dit, il a trop de la chance. J'aurais beaucoup aimé être à la base de ce projet. Je trouve ça super, en plus, ce qu'ils ont fait. Bon, sinon, il y a d'autres. Il y a Flox, que j'adore aussi. Voilà, il y a plein de projets qui m'auraient plu. Mais celui-là, particulièrement, ouais.
Et sur quelle scène, si tout était possible, encore une fois, sur quelle scène du monde tu rêverais de jouer?
Ah, je sais pas. Je sais pas parce qu'en vrai, moi je suis pas très fan des grandes scènes. J'aime les lieux plus petits.
Un petit peu plus familial, intimiste.
C'est un peu froid quand tout est grand,
oui.
En fait.
C'est vrai. Qu'est-ce que tu ressens justement une fois sur scène? Quelle émotion ça te procure?
Il y a une émotion partagée entre le stress au début. Bien sûr, avant de monter sur scène, on a toujours la petite boule au ventre. Mmh. Une fois qu'on voit tout ça devant nous, c'est un moment où on est soulevé, quoi. On se sent porté et juste on est comme hypnotisé, en fait. C'est un peu un état d'hypnose, je pense. On se regarde, on regarde le public, on est là, on en prend plein les yeux. Puis après on sort, waouh.
Ça doit être long pour redescendre, j'imagine.
Ouais. Mais ouais, c'est... On a toute la soirée pour redescendre, généralement, ça va.
C'est quoi le morceau que tu préfères jouer si tu pouvais en choisir un? Ça doit être difficile, mais bon.
Ouais, c'est difficile. J'aime bien jouer à tort ou à raison.
Ok.
Et j'aime bien les parties... On fait des parties acoustiques en ce moment, en live, donc je prends l'accordéon. Donc c'est le seul morceau où je prends l'accordéon, donc j'adore ce moment.
Ah, génial.
Alors, on se met en devant de scène, on se met en arc de cercle, comme si on était avec les gens, quoi, et j'adore. C'est certainement mon moment préféré en ce moment, ouais.
Super. Quel est ton grand rêve en tant qu'artiste?
Je sais pas, parce que là, j'ai tout, en fait. Mm-hmm. Tout ce que peut rêver un artiste.
C'est chouette.
Vraiment, je vois pas ce que je pourrais avoir de mieux.
T'es un artiste accompli.
Ah, mais complètement. Complètement. Parce qu'en plus, au final... on est connu, mais on peut quand même sortir, se promener sans forcément que tout le monde nous saute dessus. Moi, je peux faire mes courses, je peux faire ma vie sans que les gens ils me reconnaissent forcément.
Oui.
Donc, j'ai tous les avantages, quoi.
Génial.
Enfin, je dis ça parce que ça fait toujours plaisir quand même quand on se fait reconnaître par les gens. Mais je pense que le trop, c'est comme le
oui.
pas assez.
Oui, il faut un juste milieu.
Moi, après un concert, si je vais dans le festival me promener, bien sûr, si je suis avec Aurélien... On va s'arrêter tous les 2 mètres. Et lui, au bout d'un moment, il est content de faire des photos avec les gens, mais au bout d'un moment, il retourne dans les loges parce qu'il peut rien faire, en fait,
oui.
pour aller se promener. Et du coup, moi, j'ai l'avantage, je vais me promener. Et ça, les gens, ils me reconnaissent ou pas, mais c'est pas pareil.
D'accord.
Je suis plus tranquille, quand même.
Est-ce qu'il y a des projets en cours ?
Des projets en cours ? Alors moi, je fais des projets à la maison avec des artistes que j'aime, quoi, Stéphanois ou autres. Généralement, je les soutiens un peu.
Oui.
Pour le moment, j'en fais un... C'est plus par soutien que je fais ça, mais c'est un truc que j'aimerais développer par la suite.
D'accord.
C'est-à-dire, là, il y a un artiste qui s'appelle RLM, qui est sur Saint-Étienne, qui écrit bien. J'adore comment il écrit. Et il a besoin d'être coaché sur sa hauteur de voix, choisir la meilleure hauteur de voix qui lui va. Donc moi, généralement, il vient à la maison, il me fait écouter une instru sur laquelle il a écrit un texte. Et j'écoute, je lui dis la tonalité ne va pas, je règle sa tonalité. J'enregistre, je refais une instru, je le mixe et après il a son morceau prêt quoi. Et donc ça c'est vraiment mon kiff actuellement. Je fais ça avec lui puis deux autres artistes.
Super.
Et puis j'ai un projet aussi mais ça fait longtemps qu'on s'est pas penché dessus mais je faisais de la reprise autour de l'accordéon.
Mm-hmm.
Ça s'appelait Habib et Fred, ça s'appelle en fait.
Oui.
Habib et Fred, donc c'est mon pote s'appelle Habib et lui il chante.
Okay.
Et on a commencé à faire des reprises tout style. On a repris La vie est belle de Nassi, après tous les deux, qu'on a enregistré chez moi et qu'on a fait en clip. Après,
génial.
On a repris un morceau oriental de Cheb Hasni, Baïda, qu'on a fait avec un guitariste flamenco, enfin un côté arabo-andalou. Et on a fait une sorte de petit clip. Voilà, ça c'est un projet que j'aime bien aussi en parallèle, ça me fait jouer de l'accordéon.
Super. Est-ce qu'on peut retrouver ce clip, ce son quelque
ouais.
part?
Ça, c'est sur donc notre page YouTube qui s'appelle Habib et Fred. Habib,
génial.
H-A-B-I-B et Fred. Et là, il y a 4-5 morceaux clippés avec des invités. Avec,
génial.
Ça, c'est pour le plaisir aussi. C'est en fait, je suis en manque de jouer de l'accordéon, alors je fais des trucs à côté.
T'as bien raison.
Ouais, voilà.
On ne manquera pas de mettre en lien ce clip et voilà si nos auditeurs sont intéressés pour aller écouter ce que ça donne. Merci beaucoup Fred de m'avoir accordé ce temps pour répondre à mes quelques questions. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ?
Ah ben que du bonheur sur scène et puis voilà, que la vie continue comme ça quoi.
Eh ben super. Alors que du bonheur sur scène. À bientôt.
Eh ben à bientôt, merci beaucoup.
T'aurais sûrement voulu faire de nous des gens forts et intelligents. Mais quand j'y pense, ma gorge se noue, exemplaire malgré nos déviances. On était jeunes et encore un peu loups, devenus forts, surtout exigeants. Aujourd'hui tu serais fier de nous, encore une fois malgré nos déviances. Parti jeune, parti pris, parti plus haut. Le nombre est-il amour seul ou bien fléau? Partie grise dans mes gènes, est-ce mon défaut? Trouble cœur, trouble fête, comble des mots. On se sent fort, très puissant dans son ego. On se cache souvent derrière l'ami Mazo. Avec DC j'ai parfois battu le démon. Avec la page j'ai aussi perdu raison. Avec la France j'ai appris ce qu'était l'opinion. En Algérie je me suis tu quand j'avais raison. C'est double peine que tu laisses derrière ton nom. C'est force pour réagir qu'on le veuille ou non. On a grandi dans la poussière et le charbon. À Saint-Étienne, plus curieux et gravé ton nom. Celui des autres, des souffrances coincées au fond. Le nom des tiens, le nom des autres, celui des papons. Qu'ils ont construit offrant un avenir en béton. Texte à mon père, texte à mon frère, prétexte ou liaison. Il y a des hymnes qu'on ne change pas, qu'on ne bouge pas, à tort ou à raison. En direction du soleil, et ce malgré les saisons. À partir de là, je m'éveille, une lettre ouverte à l'horizon.
Car vous n'êtes plus là. J'en veux à la vie ces aléas. Vous êtes partis sans mea culpa. Tous ces noms dit qu'on ne se dira pas. Orphelin mais comment devenir vraiment père? Le temps se retourner de pleurer sur son sort. Et même si souvent je ne sais plus comment faire. Vous m'avez transmis comment pouvoir rester fort. Parti loin, parti vite, parti trop tôt. Tous partisans d'autres vies, d'autres idéaux. Au paradis par amour j'envoie ces mots. La parenthèse ne se ferme que s'il le faut. On essaie de vous rendre fiers par nos parcours, nos amours, nos vies, oui, nos destins. Que vous surveillez les arrières de nos trésors, nos bonheurs, nos enfants, leur chemin. Vos noms restent gravés sur nos terres. Et j'essaie, je transmets vos valeurs juste à l'instinct. Et même si tout est éphémère, je veux vivre et souffrir. jour pourra parler à tous ceux qui nous ont manqué depuis si longtemps. Ils resteront toujours dans nos pensées, comme chaque mot qui nous a marqué, tout est différent. La sueur et nos pleurs se mélangent sur la scène, et malgré les douleurs que l'on cache et renferme, on veut croire au bonheur au-delà de nos peines. On garde l'espoir, à tort ou à raison.